Robotic Connection, Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Et bonjour, c'est Wendyane Carpentier et vous écoutez Radio FM Plus Montpellier. On se retrouve aujourd'hui pour une émission branchée intelligence artificielle. Nous avons l'honneur d'écouter Blaise Madeline, enseignant coordinateur de parcours Smart Objet, et Claude Anne Imery, ainsi que Cédric Corselette, responsable des relations apprenants et entreprises, également à Imerir. Imerir est un institut méditerranéen d'études de recherche en informatique en robotique à Perpignan. Bonjour Monsieur Madeline.
Bonjour.
Et bonjour Monsieur Corselette.
Et bonjour.
C'est quoi concrètement Imerir? Comment ça s'est créé? Pourquoi Perpignan?
Alors c'est historique, hein. Ça a été créé en 1981 par un rêveur qui croyait déjà à la robotique et à l'informatique à une époque où pas grand monde y croyait. Et avec des promotions très petites, ils étaient, je crois, la première promotion, 3 ou 4 élèves. Et dès la deuxième année, ce sont les élèves de première année qui formaient les deuxièmes années. C'était quelque chose de très familial. Ça grandit tout doucement et en 89, quand l'école a commencé à avoir un poids un peu important, elle a été reprise par l'association, a été reprise par la CCI pour en faire une école, une véritable école au sens qu'on entend aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes aussi à l'international ?
Oui, bien sûr. À l'international, nous avons pas mal de relations Erasmus pour nos étudiants, donc en troisième année. On a une quinzaine de partenaires Erasmus et on a une grosse partie de nos troisième années qui partent à l'international. De mémoire, la Croatie, le Portugal, le Danemark, la Pologne.
L'Irlande, l'Allemagne, également le Danemark, récemment la Russie aussi.
Voilà.
Combien d'enseignants êtes-vous ?
Alors, c'est un comptage pas très simple parce que nous avons les enseignants permanents qui sont en plus coordinateurs. Donc là, nous sommes 5 enseignants permanents. Et après, nous avons une bonne cinquantaine de vacataires qui vont intervenir de très peu parce qu'ils sont très spécialisés sur quelque chose de particulier à des grosses interventions réparties sur toute l'année.
Quel genre de filière proposez-vous ? Est-ce que tout le monde a accès à cet institut ?
Oui, à partir du moment où on a un bac plus 2 plutôt orienté informatique, on a une préférence pour ça, informatique, robotique ou électronique, c'est les BTS, SN, IUT informatique, DUT informatique, DUT G2I, ce sont le public de prédilection, mais on peut accepter d'autres types de bac plus 2. Et à partir de là, il y a un concours et un examen du dossier, et une rencontre, un entretien de motivation, de projet professionnel. Et avec cet entretien, nous pouvons décider si l'étudiant peut poursuivre avec nous pendant 3 ans.
Mais les genres de filières que vous proposez, c'est quoi ?
Nous avons un premier diplôme qui est le diplôme de manager en système informatique et robotique, qui est un diplôme niveau bac plus 5, hein, validé par l'État, au registre national de la certification professionnelle. Dans ce diplôme, nous avons en deuxième année une distinction entre 4 parcours au choix des élèves. Un parcours donc Smart Object et Cloud, celui que j'ordonne, un parcours cybersécurité, un parcours Smart Application, plutôt orienté intelligence artificielle, donc, et un parcours robotique et nouvelle base d'innovation. Et en troisième année, après, c'est donc l'international plutôt.
Est-ce que cet institut est gratuit ? Comment ça marche au niveau des inscriptions ?
Alors, l'institut n'est pas gratuit. Il y a des frais de scolarité si l'étudiant est un étudiant en formation initiale. C'est 6 500 euros l'année. Et nous, on fait tout pour que nos étudiants puissent être apprentis. C'est le credo de l'école, hein. On cherche à plutôt former par l'apprentissage. Donc, on les aide tout au long de l'année dès leur inscription pour pouvoir trouver le plus rapidement possible une entreprise et donc ne pas avoir ces frais de scolarité à payer.
Quels sont les axes de recherche à l'Institut Imerir ?
Alors, les profs ne sont pas des enseignants-chercheurs à l'Imerir, hein. Les enseignants sont des enseignants à part entière. Donc, il n'y a pas de laboratoire de recherche associé.
Et quel est le but de cet institut ?
De former des élèves à bac plus 5 pour être ensuite des ingénieurs en entreprise, soit informatique, soit robotique, soit sur de l'intégration de solutions informatiques dans de la robotique.
Monsieur Corselette, quelles sont vos missions en tant que responsable des relations apprenants et entreprises à l'Institut Imerir?
Alors, moi, je suis vraiment en charge plus de la partie relations apprenants. Hein. Relations apprenants-entreprises, c'est plutôt mon collègue, Monsieur Rancoul, qui s'en occupe. Donc, lui, il est en charge, justement, de veiller à trouver des partenariats au niveau entreprise et de s'assurer que entre l'apprenant et l'entreprise, tout se passe pour le mieux. Moi, pour ma part, c'est vraiment la partie relations apprenants. Donc, c'est moi qui interviennent dans les salons pour toute la partie recrutement. Et également, je me charge de toute la partie communication. Par exemple, le week-end dernier, nous étions sur le Perpignan Game Show, qui est l'événement après le Toulouse Game Show, après le Montpellier Game Show, que vous devez sans doute connaître. Il y a le Perpignan Game Show au mois de juin et je me chargeais avec nos élèves de faire la promotion de l'école avec nos projets, avec les projets des étudiants également qu'ils ont réalisés durant par exemple leur première année de formation à l'Imerir.
Pouvez-vous un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que le Game Show?
Alors le Perpignan Game Show, c'est un grand événement orienté plutôt gamer, où les jeunes, certains d'entre eux sont déguisés avec leur héros de jeux vidéo favori, donc c'est ce qu'on appelle les cosplays. Également, c'est pour tous les jeunes qui sont plus orientés, on va dire les geeks, hein. Ils apprécient également tout ce qui est héros de manga et donc ils se déguisent par rapport à ces héros-là. Voilà.
Et vous, Monsieur Madeline, quelles sont vos missions en tant qu'enseignant coordinateur du parcours Smart Object et Cloud à Imerir?
Alors, en tant que coordinateur de parcours, quel que soit le parcours, hein, moi, le mien, effectivement, c'est Smart Object and Cloud, mais pour les autres parcours, c'est la même chose. L'enseignant responsable a premièrement la définition du programme à faire en lien avec la direction, bien sûr, hein, mais de définir quelles vont être les compétences, le bloc référence compétences de ce parcours, de proposer un déroulé pédagogique cohérent pour ces compétences, et de recruter les enseignants vacataires qui vont intervenir sur ce parcours, les conférenciers, d'organiser bien sûr le planning et de proposer, de faire une description de ce parcours aux étudiants pour qu'ils puissent le choisir en toute connaissance de cause.
Et maintenant, petite pause musicale, Born Again, interprétée par Austin French. C'est parti, vous écoutez Born Again sur Radio FM Plus Montpellier.
Stuck, I was running around broken hearted. I was sinking so fast, I couldn't last, falling apart. And you could've run away, leaving me there in my shame, leaving me fighting my pain, but you made a better way.
Oh, oh, oh.
I've been taken back to the center. I'm held by the Father above. No more shame, born out of the desert and drowned in the power of love. Showing me all of my life in a new light. Every step, every breath, like it's the first time. You could've run away, leaving me there in my shame, leaving me fighting my pain, but you made a better way.
Oh, oh, oh.
I've been taken back to the center. I'm held by the Father above. No more shame, born out of the desert and drowned in the power of love. Told me the good, good news.
Oh, 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 oh.
Vous écoutez Austin French, Born Again sur Radio FM Plus Montpellier. Nous revoici avec Monsieur Madeline, enseignant coordinateur du parcours Smart Object et Cloud à Imérir, ainsi que Cédric Corselette, responsable des relations apprenants et entreprises, également à Imérir. Monsieur Madeline, vous qui êtes enseignant coordinateur du parcours Smart Object et Cloud à Imérir, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle selon vous ?
Alors, selon moi, oui, effectivement, c'est une définition pas simple à donner parce que déjà, le terme a été souvent galvaudé et il nécessiterait de présenter ce que c'est que l'intelligence. C'est-à-dire que c'est déjà difficile en tant qu'humain de donner une vraie définition d'intelligence. Chacun a un peu la sienne. Il y a des gens qui mettent de l'intelligence dans des petits animaux, d'autres qui disent non, il n'y a que l'humain qui a de l'intelligence. Donc déjà, il y a cette chose-là à définir. Mais si on part du principe que l'intelligence, c'est à partir du moment où on arrive à être autonome et à être auto-apprenant, à apprendre des choses par nous-mêmes. Faire de l'intelligence artificielle, c'est construire des machines capables de simuler cette intelligence et d'en être capable d'apprendre par elles-mêmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des algorithmes. On va reconnaître une image, on va reconnaître un texte, on va pouvoir répondre à un texte tapé ou un texte dit. Vous avez pour quelques-uns des assistants personnels à la maison qui vont pouvoir mettre de la musique pour vous ou répondre à certaines de vos questions. Après, dans l'intelligence artificielle, il y a plein de pans de recherche, de secteurs de recherche assez différents les uns des autres. Les plus connus et qui ressemblent plus à ce qu'on va appeler donc intelligence artificielle sont l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Comme on a pu voir, par exemple, ces algos qui sont capables de jouer au jeu de Go, alors qu'on pensait encore il y a quelques années cela très compliqué. On arrive aujourd'hui à avoir un algorithme meilleur que le meilleur humain qui joue au Go.
Vous pouvez expliquer qu'est-ce que le jeu de Go ?
Alors le jeu de Go, c'est un jeu très ancien asiatique qui consiste à poser des pièces de jeu sur un plateau de jeu qui ressemble de loin à un plateau de jeu d'échecs. Il n'y a pas de couleur, c'est juste un quadrillage, et de prendre l'avantage en termes de territoire sur ce plateau de jeu. Le joueur qui a réussi à avoir le plus grand territoire gagne.
Quels sont les avantages de cette intelligence artificielle ?
Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va permettre à l'humain d'aller plus vite. C'est-à-dire que quand on a un jeu de Go qui joue mieux que l'humain, ça veut dire que tout humain qui veut s'entraîner va avoir un adversaire forcément à sa mesure, toujours plus fort que lui. Aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle dans plein de secteurs. Encore un coup, je dis le terme est un petit peu galvaudé parfois, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de mettre l'intelligence artificielle dès que l'algorithme agit de manière qui fait ressembler à un traitement humain. Par exemple, un exemple qui est paru il n'y a pas très longtemps dans la presse, aujourd'hui on a en agriculture des outils qui vont permettre de pulvériser uniquement sur les plantes qui en ont besoin. Donc comme ferait un petit jardinier dans son jardin, mais on va pouvoir le faire sur un très grand champ en ayant exactement la structure du champ et à quels endroits on doit envoyer du produit. Donc on va appeler ça de l'intelligence artificielle. C'est un terme qui est très utilisé pour tout ce qui est start-up aussi. C'est-à-dire que ça permet de dire, on fait quelque chose de novateur, croyez en nous.
Est-ce qu'elle est en constante évolution, cette intelligence artificielle ?
Alors, déjà, le terme, vous utilisez un terme singulier, cette intelligence artificielle. Il n'y a pas une intelligence artificielle. Chaque algorithme qui va être créé en utilisant certaines techniques scientifiques est une intelligence artificielle. Donc oui, c'est en constante évolution. Les chercheurs travaillent énormément dessus. Les grosses industries de l'informatique mettent énormément de moyens là-dessus. Aujourd'hui, que ce soit ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, mettent énormément d'argent là-dessus. J'ai lu il n'y a pas longtemps aussi, Amazon, c'est 28 milliards de dollars de recherche et développement aujourd'hui. C'est quand même énorme comme chiffre. Donc oui, c'est en constante évolution et ça avance. Ça avance même plus vite que ce qu'attendaient certains chercheurs.
Y a-t-il des risques ?
La notion du risque, c'est est-ce qu'on doit en avoir peur ? Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas en avoir peur parce que ça reste de l'outil. Mais c'est vrai que d'avoir utilisé ce vocable intelligence artificielle fait peur à beaucoup de gens qui n'ont pas les notions associées et qui pensent que on va avoir des robots qui vont nous remplacer, sur tous les sens du terme. On a des robots qui remplacent des tâches humaines très basiques, mais des robots qui nous remplacent, non, on n'y est pas du tout, vraiment, on est très très loin de ça. On n'a pas ce qu'on a appelé la singularité dans certains livres de science-fiction, notamment, en disant le jour où l'intelligence artificielle sera plus intelligente que nous. On a plein de films et de livres qui entretiennent cette peur, hein, les Matrix et autres livres d'Asimov qui vont entretenir cette peur, que peuvent avoir certaines personnes.
Quel type d'intelligence artificielle travaillez-vous en cours ? Comment ça marche ?
Alors, on a un parcours dédié, c'est pas celui que je coordonne, mais un parcours dédié pour les étudiants. Il y a d'abord une initiation pour tous les élèves à l'intelligence artificielle, donc en parlant des notions de complexité des programmes et à partir de quand il est intéressant d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle quand les programmes classiques n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué. Ensuite, dans le parcours dédié à l'intelligence artificielle, on va aller plus loin, on va pouvoir parler d'apprentissage automatique, on va pouvoir parler de sémantique, on va pouvoir parler d'optimisation efficace et des choses comme ça. Ceux qui feront le parcours Smart Application, qui est dédié à l'IA, il va y avoir effectivement plusieurs modules associés à un pan de l'IA, à un secteur de l'intelligence artificielle, que ce soit notamment les notions d'optimisation, les notions d'apprentissage pur, les notions de système expert, des notions autour de la représentation des connaissances, c'est-à-dire que premièrement, on essaye de la représentation des connaissances, c'est comment on peut mettre de la sémantique sur des données où on n'a pas la sémantique au démarrage, par exemple. Ça peut être très compliqué comme chose, et c'est nécessaire pour développer certains algos d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que quand vous uploadez une image sur Facebook, elle va reconnaître les gens qui sont dessus, mais aussi reconnaître la situation. C'est-à-dire que l'algorithme va être capable de dire « ce sont des gens en train de manger ». Donc non seulement il a vu l'image et a détaillé les images en couleur, comme peut faire n'importe quel petit ordinateur, mais va pouvoir dire quel est le sens qu'il y a dans cette image.
Depuis quelques années, les robots humanoïdes comme Sophia, Pepper, Nao, Jaja, Erika commencent à voir le jour. Et certains même interviennent déjà en politique, dans les shows télévisés et dans les films. Et même au sein de votre institut, je crois, vous proposez des études sur des véritables robots humanoïdes. Pensez-vous qu'il serait possible en 2025 ou 2050 que des entreprises soient amenées à travailler avec des robots humanoïdes ?
Alors, comme vous le dites, il y en a déjà qui travaillent avec des robots humanoïdes, notamment pour tout ce qui est robots d'assistance, ce qu'on appelle robotique d'assistance, c'est-à-dire des robots d'accueil, des robots qui vont guider les gens dans des lieux, et des choses comme ça. Donc, ça arrive déjà, c'est même pas 2025, ça existe déjà. Ils en utilisent à la SNCF, ils utilisent dans certaines entreprises, dans des banques, dans des hôtels. Donc, oui, il y a des robots d'assistance qui sont là. Est-ce qu'ils vont être généralisés dans les entreprises ? Il y a de grandes chances qu'ils soient généralisés. À quel point on va faire des robots humanoïdes ? Ça, c'est la question. À quel point on va les rendre humanoïdes ? On se rend compte que psychologiquement, il faut pas aller trop loin dans les robots humanoïdes. C'est-à-dire que s'ils ressemblent trop à un humain, ils commencent à être inquiétants parce qu'ils ressemblent beaucoup. Donc notre façon de percevoir le robot, c'est de le percevoir presque comme un humain. Et s'il y a des différences notables, elles induisent un malaise. Alors que si on garde des robots du type dont le faciès est un peu joué, comme ça peut être le cas du Pepper, ou dont il n'y a pas de faciès, c'est juste une forme humaine, le commun des mortels est moins craintif. Mais on va en voir certainement, notamment dans les EHPAD, par exemple. C'est un endroit où il y aura sûrement beaucoup de robots d'assistance qui vont arriver. Ça a commencé, aujourd'hui c'est très cher, donc les EHPAD ne peuvent pas se payer, c'est déjà assez cher comme ça, ce genre de robots. Mais les populations étant vieillissantes, il y a de fortes chances qu'on introduise des robots d'assistance dans ce secteur-là. Mais c'est pas le seul. À partir du moment où on va pouvoir avoir des robots qui aident, qui guident, on va en avoir un peu partout, oui, je pense.
Est-ce que le robot humanoïde et l'intelligence artificielle sont étroitement liés ?
Alors oui, forcément. L'intelligence artificielle, enfin les intelligences artificielles qu'on va écrire, sont un moyen d'interagir avec l'humain. Donc oui, à partir du moment où le robot va interagir avec l'humain, on va lui implanter des algos d'intelligence artificielle pour qu'il puisse interagir correctement et le plus correctement possible. Finalement, encore un coup, je parlais tout à l'heure des assistants vocaux qu'on a dans nos maisons aujourd'hui qui commencent à se généraliser. C'est une sorte de petit robot, sauf qu'il ne se déplace pas, mais c'est quelque chose qui interagit avec l'humain, qui va mettre de la musique pour nous, qui va répondre à une question, qui va éteindre la télé ou allumer le chauffage. Donc après, si en plus il se déplace dans la maison et qu'il peut ramener un verre d'eau à quelqu'un, eh ben oui, on va avoir des algos qui sont capables de reconnaître la demande de l'humain, même de préempter, d'être précurseur sur la demande. C'est de se rendre compte que si on a un robot d'assistance chez une personne âgée, bah, il va lui amener de l'eau régulièrement parce qu'on sait qu'en période chaude, elle ne pense pas forcément à s'hydrater.
Quels sont les types de robots humanoïdes sur lesquels vous travaillez en cours ?
Oui, alors donc sur les robots humanoïdes, nous avons effectivement à l'école deux robots NAO et un robot Pepper qui permettent de former les élèves dès la première année et de développer des projets dessus. C'est un robot qu'on va retrouver aussi sur tous les salons, en principe, quand on intervient sur un salon. Ensuite, du coup, nous avons les robots mobiles qui sont des robots pédagogiques. C'est un des robots qui vont servir à apprendre vraiment les bases de la robotique. On a le robot bras aussi, effectivement, on a un robot bras, un Universal Robot, si je ne me trompe pas. C'est un robot cobot qu'on appelle cobot. Hein. C'est des robots collaboratifs, c'est-à-dire qu'on peut travailler à côté sans avoir une cellule de sécurité parce qu'ils sont capables de détecter le fait qu'ils touchent un humain et donc s'arrêter à ce moment-là. Et enfin, nous avons régulièrement des relations avec des fabricants de robots qui viennent dans l'école et présenter et former les élèves sur leur dernier robot. Donc nous avions Stobli qui est venu avec trois robots très innovants et présenter aux étudiants et les former sur ces robots-là et sur les plateformes de développement des robots.
Qu'aimeriez-vous partager aux auditeurs avant de nous quitter, peut-être au niveau des formations, des ressources bibliographiques ou parler des séminaires peut-être que vous faites à l'Institut ?
Sur les projections 2025-2050, si je peux revenir un petit peu de plus, mais j'avais dit déjà que c'était difficile de se projeter en 2050, mais que les robots allaient certainement prendre beaucoup de place.
Oui.
Mais l'intelligence artificielle aussi va prendre beaucoup de place dans les années à venir, aujourd'hui, parce qu'elle permet de pallier à ce que l'humain n'est pas toujours capable de faire ou à aider à aller beaucoup plus vite dans ce qu'il est capable de faire. Il y a quelques années, en intelligence artificielle, reconnaître une image, c'était quelque chose de compliqué. L'humain était toujours meilleur. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle est devenue tellement efficace que lorsqu'un ordinateur nous dit « cette image représente telle chose » et qu'un humain dit « non, je ne suis pas d'accord », il vaut mieux faire confiance à l'intelligence artificielle, qu'il y a plus de chances qu'elle soit correcte que l'humain. Hein, la QRSI, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais l'efficacité de l'algorithme est bien meilleure que l'efficacité humaine. Par contre, lorsque l'intelligence artificielle se trompe, c'est flagrant pour un humain. C'est ça qui est choquant pour les humains, c'est que lorsqu'un algo d'intelligence artificielle se trompe, il se trompe énormément. C'est-à-dire que c'est flagrant pour l'humain, alors qu'un humain qui se trompe, on dirait « oui, mais si est presque, on reconnaît presque quelque chose ». Après, toujours sur qu'est-ce qui va se passer en 2050, si on se retourne et qu'on regarde ce qui se passait à la fin des années 80, parce que c'est ça, il y a 25 ans, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a 25 ans, il n'y avait pas de web, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur dans chaque maison, il n'y avait pas de téléphone portable, on n'imaginait pas la robotique comme le NAO. Quand les NAO sont arrivés, ça a été une révolution visuelle, hein, même si leur technicité n'était pas énorme, la qualité de l'objet était impressionnante par rapport à ce qu'on attendait. Donc on a vu en 25 ans un progrès technique phénoménal sur certains points et pas si grand que ça sur les rêves qu'on pouvait peut-être avoir à la fin des années 80. À la fin des années 80, on rêvait peut-être de voitures volantes autonomes pour tout le monde. On n'y est pas du tout. On rêvait peut-être d'assistants, comme on pourrait le voir dans les films de type l'assistant d'Iron Man. On n'y est pas du tout non plus. Mais il y a d'autres choses qui ont eu un progrès phénoménal. On ne s'en devrait pas avoir dans nos poches tous un ordinateur qui est 10 fois plus puissant, enfin, plusieurs fois plus puissant que ce qui a envoyé des gens sur la Lune il y a 50 ans. Donc c'est se projeter dans 25 ans avec la vitesse à laquelle ça va, c'est assez difficile.
Au niveau des salons, maintenant, ce sera un peu compliqué puisqu'on arrive en fin d'année, hein, donc tous les salons ont déjà eu lieu. Ensuite, il faut savoir que nous, on démarre vraiment notre période de prospection à partir déjà d'octobre où on commence à intervenir sur des salons. Donc, il y a, par exemple, des salons liés à l'invention, des salons plus orientés. Il y a la fête de la science qui a lieu vers le mois d'octobre partout en France. Donc, on a des interventions. Voilà. Après, si les personnes vont sur notre site internet et également sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn, ils trouveront tous les événements où nous nous rendons. Et enfin, également, je vais conclure sur le fait que nous avons nos journées portes ouvertes qui s'appelle un événement qui s'appelle Tech Innov, où là, en plus des portes ouvertes, donc on va montrer aux personnes les lieux où étudient les jeunes, également les robots sur lesquels ils travaillent. Les jeunes aussi proposent leurs projets à des entreprises. Et voilà, et donc on ouvre également les portes aux entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir des apprentis chez elles.
Monsieur Madeline, qu'avez-vous à rajouter ?
Ce qu'on peut rajouter effectivement, c'est qu'à la fin de ce mois a lieu la remise des diplômes et surtout les soutenances des dernières années qui viennent présenter le travail qu'ils ont fait sur les 6 à 7 derniers mois. Et donc ce sont des soutenances qui sont pour la plupart publiques, hein, sauf quand il y a du secret industriel, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et donc on peut inviter des gens à venir voir ce qui se passe pendant cette semaine-là. C'est donc la semaine du 22, 23 et 24 octobre. Et la remise des diplômes a lieu le soir du 25 octobre au Palais des Rois de Majorque. Ce sont des événements qui sont pour la plupart publics. Et donc les gens peuvent venir se renseigner sur ce qui se passe à l'école, voir ce que proposent nos étudiants de fin d'année ou des recruteurs qui seraient intéressés par nos étudiants, venir voir un peu quels sont ceux qui sont prêts à travailler pour eux.
Merci à vous, Monsieur Corselette et Monsieur Madeline. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et maintenant, nous allons écouter The Proof of Your Love, interprété par Falkling and Country. C'est parti, vous écoutez The Proof of Your Love sur Radio FM Plus Montpellier.
God's word with power, revealing all of his mysteries and making everything as plain as day. And if I have faith to say to a mountain, jump, and it jumps, but I don't love, I'm nothing. If I give all I own to the poor, or even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, no matter what I say, no matter what I believe, no matter what I do, I'm bankrupt without love.